Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Nous serons dans un instant en direct de Londres avec Antoine Gignot qui suit la session exceptionnelle du Parlement dédiée à l'examen par les députés du dernier accord en date sur le Brexit. Commentaire de Stephen Clark, auteur de l'ouvrage intitulé « God save the Brexit ». Également au sommaire, une revue de la presse catalane au lendemain de manifestations monstres contre les condamnations de chefs de file du mouvement indépendantiste. Les enjeux d'une nouvelle mobilisation cet après-midi des salariés de l'unité Belfortaine de General Electric, précision de Sarah Ders en fin d'édition. La Bulle Écho, signée Marie Viennot, qui traite de Libra, le projet monétaire de Facebook. Winston Churchill aimait à nommer la Chambre des communes la citadelle de la liberté britannique. Les commentateurs épris de ce haut lieu de la vie politique n'ont pas assez de mots pour dire leur désarroi. Les débats sur le Brexit auraient abîmé l'aura du Parlement. 3 ans de palabres indignes, des joutes d'exception sans trouver l'issue de secours. Bonjour Antoine Gignot. M'entendez-vous Antoine Gignot en direct?
Absolument, bonjour,
de Londres.
Je vous entends très bien.
Bonjour Antoine, le Premier ministre a ouvert cette session exceptionnelle en déclarant que l'accord décroché à Bruxelles était une manière d'aller de l'avant. De l'avant grâce à une majorité, Antoine, justement, Boris Johnson a œuvré jusqu'au dernier moment au ralliement d'un maximum d'indécis.
Oui, multiplication des promesses pour le Premier ministre. Boris Johnson tente le tout pour essayer de convaincre un maximum de députés de le soutenir. Il n'a d'ailleurs pas le choix. Il n'a pas la majorité à la Chambre des communes. Il lui faut les voix des travaillistes. Et c'est à eux et aux Verts qu'il pense quand il promet de protéger les droits des travailleurs et l'environnement.
Personne ne pense sérieusement qu'on va abaisser les standards. À la place, on va les améliorer grâce à notre liberté retrouvée. Nous serons par exemple libérés de la politique agricole commune. Nous aurons un système plus simple pour récompenser les fermiers qui améliorent notre environnement. Et nous serons libérés de la politique européenne de la pêche et des quotas.
Boris Johnson promet aussi une stabilité économique avec quelques phrases en direction des députés irlandais. Il explique que l'accord négocié avec Bruxelles évite de reconstruire une frontière en Irlande du Nord et ne génère pas trop de procédures, pas trop de bureaucratie. C'est la meilleure solution possible, dit-il. Les députés unionistes sur leur banc secouent la tête. Ils voteront contre le texte, comme la majorité des travaillistes, harangués à leur tour par Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche.
You cannot trust a word that he says.
Vous ne pouvez pas croire un seul mot de ce qu'il raconte. Si nous votons aujourd'hui en faveur de l'accord, ça ne résoudra rien. Je comprends très bien la frustration et la fatigue qu'on voit dans l'ensemble du pays et ici au Parlement, mais on ne peut tout simplement pas voter pour un accord qui est pire que celui que nous avons rejeté à 3 reprises. C'est le peuple qui devrait décider.
Cette idée de nouveau référendum populaire qui permettrait de résoudre la question, c'est d'ailleurs aussi ce que réclament des centaines de milliers de manifestants en ce moment qui sont en train de se rassembler dans le centre de Londres.
Alors Antoine, on va vers un vote ou pas ?
Ça, c'est la vraie question. Au moment où je vous parle, personne ne peut le dire. Les anti-Brexit ont déposé en urgence une motion qui, si elle est validée par les députés, va obliger le Parlement à examiner tous les points de l'accord un par un pour les transcrire dans la loi britannique avant d'organiser le vote final. La procédure pourrait prendre des semaines et pourrait ironiquement obliger Boris Johnson à demander un report à l'Union européenne.
Merci à vous, Antoine Gignot, en direct de Londres. Ces débats au Parlement sont suivis de très près, vous l'imaginez, dans tout le royaume, avec une attention toute particulière en Irlande du Nord, à Bruxelles également, avec en partage une seule et même préoccupation. Est-ce le début de la fin des hésitations? À cet égard, nous avons sollicité le commentaire de Stephen Clark, auteur de l'ouvrage intitulé « God save the Brexit ».
Personne ne sait comment les choses vont se développer. Même si les parlementaires votent aujourd'hui pour le deal de Boris Johnson, on ne sait pas s'il sera appliqué parce qu'il faudra revoter. S'ils votent contre, on ne sait pas ce qui va se passer. En fait, pour moi, c'est la tragédie de la Grande-Bretagne, c'est qu'en fait, depuis 3 ans, les parlementaires ne font que débattre sur le Brexit sans prendre une décision, et pendant que l'économie s'écroule. C'est une vraie tragédie. Pour moi, c'est une sorte de, encore une étape dans une descente interminable, dans une sorte de gouffre. Tout le monde en a marre, mais le problème, c'est que ça ne peut pas aujourd'hui être le dernier épisode, parce que quoi qu'il y arrive, il y a d'autres débats dans le Parlement sur cette question. Même si on accepte aujourd'hui le deal de Boris Johnson en principe, il faut que les parlementaires redébattent. Et à ce moment-là, il y a un amendement qui a été proposé qui risque de repousser les choses jusqu'en janvier, s'il est accepté. Et donc, non, ce n'est pas du tout le dernier vote aujourd'hui. C'est encore une étape. Le pays est otage à ces parlementaires qui ne décident rien. Donc, c'est jamais la fin. La population est complètement divisée en deux. Il y a deux clans qui ne se parlent absolument pas, qu'on soit pour ou contre, on ne parle pas aux autres. C'est probablement pour la première fois dans l'histoire que pour moi, depuis que je suis vivant, j'ai jamais vu un truc pareil. Ceux qui ont voté pour, alors ceux qui ont voté pour le Brexit pour des raisons xénophobes, il y en a beaucoup, qui n'aiment pas les étrangers, qui n'aiment pas le fait que Bruxelles nous impose des lois, même si ces lois nous protègent notre environnement, etc. J'ai jamais entendu un Anglais me citer une loi européenne qu'il n'aime pas. Même ces gens-là se rendent compte qu'on leur a menti parce qu'on leur a dit votez pour le Brexit et tout sera meilleur. Tout sera clair, on quittera l'Europe comme si on était une pièce dans un puzzle, tandis que l'économie est tellement liée avec l'Europe maintenant, les imports, les exports, que c'est comme si on essayait de défaire une tapisserie en 3 ans, c'est impossible.
Stephen Clark, auteur de l'ouvrage intitulé « God Save the Brexit » avec Alicia Miami. Au lendemain d'une grève générale très suivie et d'abondantes manifestations à Barcelone émaillées d'affrontements avec la police, 83 interpellations, 152 blessés, la droite espagnole met en demeure le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez de rétablir l'ordre en Catalogne, une Catalogne à vif, après des condamnations par la justice espagnole de chefs de file du mouvement indépendantiste. C'est une revue de presse signée Mathieu de Taillac.
Il y a deux façons de parler des mobilisations en Catalogne, deux manières et deux images. La première, c'est la photo de la marée humaine qui envahit les grandes rues de Barcelone hier après-midi. C'est l'image aérienne que l'on voit en une d'El País à Madrid, de la Vanguardia, le journal des élites modérées de Catalogne, d'El Punt Avui ou d'Ara, de quotidiens indépendantistes. Et puis, les affrontements, c'est la photo de barricades et de drapeaux, avec des faux airs de Delacroix en première page d'El Mundo. C'est l'individu en sweatshirt à capuche qui jette une barrière métallique dans un brasier à Barcelone, en une d'ABC, le doyen conservateur de la presse espagnole. Entre les deux, El Periódico de Catalunya, proche des socialistes, juxtapose les deux images du chaos et du calme. En page intérieure, El Mundo réclame dans son éditorial l'application de l'article 155 de la Constitution qui permet de placer la région sous tutelle de Madrid. La situation est insoutenable, écrit le journal, et l'article 155 est là pour ça. Pour le directeur de la Vanguardia, en revanche, il est émouvant de voir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes manifester pacifiquement dans le centre-ville et tellement décevant que personne n'ait le courage et l'intelligence d'appuyer sur le frein, d'arranger le pays et de chercher une sortie de compromis. Fin de citation.
Mathieu de Taillac à Madrid. Quelle trêve dans le nord syrien. Le ministère turc de la Défense prétend ce matin que les forces kurdes ont mené 14 attaques dans les dernières 36 heures quand l'Observatoire syrien des droits de l'homme a dénombré 14 civils tués hier par des raids aériens turcs et des bombardements à l'artillerie des rebelles pro-turcs. Le président chilien Sebastián Piñera a décrété hier soir l'état d'urgence à Santiago et a confié à un militaire la responsabilité d'assurer la sécurité après une journée de violence et d'affrontements née de protestations contre l'augmentation des prix des transports. Il est 12h38, vous écoutez le journal de France Culture. Grève ou droit de retrait? La direction de la SNCF s'en prend aux contrôleurs ainsi qu'à leurs représentants syndicaux. Le trafic reste très perturbé au lendemain d'un accident de TER dans les Ardennes au cours duquel un contrôleur seul à bord a dû gérer la situation. Accident qui a déclenché un élan de solidarité et donc de significatives perturbations sur le réseau. À l'instant, Édouard Philippe, Premier ministre à la Gare de l'Est à Paris, déclare qu'il s'agit d'un détournement du droit de retrait qui s'est transformé en grève sauvage. Fin de citation. Les salariés de l'entreprise Belfortaine, General Electric, toujours en lutte contre un plan social qui prévoit 792 suppressions de postes, ont reçu hier deux propositions de la direction. Nouvelle manifestation cet après-midi. Bonjour Sarah Ders.
Bonjour.
Sarah, de quelle proposition s'agit-il?
Alors première proposition, l'entreprise américaine General Electric serait désormais prête à supprimer 500 postes au lieu de 800 dans l'activité de turbine à gaz de Belfort et Bourgogne, à condition de revenir sur certains acquis sociaux, notamment le nombre de RTT. Autre option proposée, sauvegarder seulement 111 postes. Des propositions plutôt des concessions qui divisent les syndicats CFE, CGC, Sud et la CGT qui doivent pourtant signer à la majorité l'accord pour continuer à négocier une négociation que souhaite Alexis Sema, représentant du syndicat Sud à General Electric.
C'est vrai que jusqu'à maintenant, en travaillant l'intersyndicale, il y avait une seule voix pour toute l'intersyndicale. Là, je comprends que l'intersyndicale, qui est composée de 3 syndicats, puisse prendre des distances et s'exprimer de façon autonome. La question, l'enjeu est de taille. Il y a des divergences entre syndicats, ce qui est tout à fait normal. Donc, chacun prend sa liberté de parole. La CGT a décidé ou déciderait de ne pas signer. C'est son choix. C'est la raison pour laquelle on va se retourner vers les salariés. Jusqu'à maintenant, l'accord cadre a été discuté par un certain nombre vraiment limité de représentants du personnel. Les enjeux sont tels que on souhaite avoir mandat de l'ensemble des salariés pour continuer dans cette voie ou aller dans le sens de la direction avec son projet initial.
Deux options s'offrent donc aux salariés: négocier ou continuer le blocage. Les salariés se décideront en assemblée générale lundi dès 10h sur les suites à donner au bras de fer engagé entre l'intersyndicale et la direction.
Merci à vous, Sarah Ders.
La bulle économique, Marie Viennot.
Et aujourd'hui, dans la bulle économique, vous nous entretenez, Marie, de Libra, le projet monétaire de Facebook qui fait trembler les États du monde entier, les riches en premier lieu.
Remember when these were fast?
C'est une courte vidéo. Fax, premiers ordinateurs, connexion antique à Internet. Ça, c'était le monde d'avant, explique Facebook pour présenter Libra, sa crypto-monnaie. La révolution technologique a changé le monde, nous dit-on, mais il y a comme un bug.
So why is it simple to send one of these anywhere, in an instant, but not money?
Pourquoi est-ce si simple d'envoyer des photos dans le monde entier et pas de l'argent? La question est simplissime, pertinente et justifiée. Aujourd'hui, si on veut transférer de l'argent dans un autre pays, il faut passer par des intermédiaires patentés, ce qui coûte et prend du temps. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès à des services financiers. Grâce à la nouvelle technologie de la blockchain, Libra veut être, c'est dit ainsi, une nouvelle monnaie mondiale pour un monde digital, pour que l'argent marche pour tout le monde, poursuit la vidéo. Il faut bien évidemment douter des intentions philanthropiques de Mark Zuckerberg. En revanche, personne ne peut lui rétorquer « Non, 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 tout va bien dans le système monétaire actuel. Personne. » Alors pourquoi tant d'inquiétudes dans les hautes sphères financières et monétaires ? Les autorités ne découvrent pas les crypto-monnaies, mais depuis 10 ans qu'elles existent, leur usage est resté confidentiel. Libra, c'est autre chose, car derrière, il y a les 2,5 milliards d'utilisateurs de Facebook. D'un coup, on change d'échelle. Libra est un potentiel concurrent, non pas du Bitcoin, mais du dollar et de l'euro. En plus, Libra n'est pas une vraie crypto-monnaie. Contrairement au Bitcoin, son algorithme ne serait pas au début ouvert à tous, mais administré par un consortium d'entreprises privées. Elles sont 21 aujourd'hui. Libra vise 100 membres à terme. On est loin d'un projet open source, décentralisé et potentiellement désintéressé. Enfin, Libra se veut une monnaie numérique stable. Moins volatile que le Bitcoin, elle pourrait être utilisée comme moyen de paiement et même comme monnaie de réserve. Que deviendraient les banques centrales, elles qui peinent déjà avoir un effet sur l'économie réelle si une grande partie de la masse monétaire mondiale se retrouvait sous gestion de Facebook et son consortium. Quid de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la collecte des taxes, de la gestion des crises? Quid de la sécurité des données financières, du droit à la vie privée et à l'oubli? Beaucoup de drames est fait autour de notre projet Libra en public, explique Mark Zuckerberg à ses salariés dans un enregistrement qui a fuité. Mais en réalité, dit-il, les discussions que nous avons avec les régulateurs, celles qui ne se passent pas devant les caméras, sont beaucoup plus substantielles. Ces discussions, Libra les mène d'abord avec les autorités suisses. C'est à Genève qu'a été créée cette semaine l'association regroupant ses membres fondateurs et c'est à Berne, à l'autorité de régulation des marchés helvétiques, qu'elle a présenté son projet pour un premier avis. Aucun agrément n'a encore été donné, mais Libra a déjà le mérite de mettre les régulateurs monétaires au pied du mur. À projet mondial, réponse mondiale. Or, cette approche fait cruellement défaut pour les crypto-monnaies. Les pays du G7 ne sont d'accord que sur un principe, pas d'autorisation tant que la régulation n'est pas adaptée au risque. Mais parmi eux, il y a la France, l'Italie et l'Allemagne qui disent ouvertement « La Libra est une atteinte à notre souveraineté monétaire, elle n'est pas la bienvenue chez nous ». Et il y a la Grande-Bretagne qui, par la voix de son banquier central, trouve au contraire que la Libra ou tout autre projet de monnaie stable numérique pourrait être une alternative à la domination internationale du dollar. Les États-Unis, eux, auditionnent sans encore agir. Benoît Cœuré, l'ancien numéro 2 de la BCE, vient de remettre un rapport sur ce sujet au G7. Il reconnaît que jusqu'à maintenant, les régulateurs ont eu une approche bac à sable de ces innovations financières. Maintenant, dit-il, nous avons un éléphant dans le bac à sable.
This is Libra, and it's just the beginning.
Ainsi se referme cette bulle économique. Merci à vous, Marie Vienno. Le temps, quelques mots. Maussade de la pluie, sauf sur les Pyrénées, le Pays Basque, les Bouches-du-Rhône, la Corse et le Pas-de-Calais. Un peu plus de soleil cet après-midi sur la Picardie et le bassin parisien. Cette édition a été préparée avec François-Charles Demergue, à la technique Alice Seyed.